Merci d'écouter RFI, les 5h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Goma et Bukavu. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Et nous sommes ce matin donc à Bukavu, la capitale du Sud Kivu.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, ville où face à l'incertitude de la situation, certains habitants, vous l'entendrez, commencent à faire des stocks. Les affrontements entre les hommes du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les soldats congolais sont désormais à plusieurs dizaines de kilomètres plus au nord. Dans ce journal également, l'Ouganda et le procès de l'opposant Kizza Besigye. Il doit normalement reprendre aujourd'hui, alors que ces derniers jours, la Cour suprême a estimé qu'en tant que civil, il ne pouvait pas être jugé par une cour militaire. Le président et l'armée ougandaise s'opposent à cette décision. Le FMI et le Burundi dos à dos. Gitega refuse une nouvelle dévaluation du franc burundais réclamée par le Fonds monétaire international. Et l'accord trouvé il y a un an et demi est désormais devenu caduc. Enfin, dans une dizaine de minutes, le journal des sports. Rendez-vous avec Antoine Grenier. On parlera football, judo et tennis. Des combats se poursuivent donc dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont toujours à l'offensive. Hier, l'armée congolaise a annoncé le décès dans ces combats de l'un de ses officiers, le colonel Rugabisha, mort d'après le communiqué officiel après des affrontements au niveau de la localité de Nyabibwe samedi. 75 kilomètres environ plus au sud, c'est Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, qui accueille des déplacés des combats et dont certains habitants, face à l'incertitude de la situation, commencent à faire des stocks. Reportage de William Bassimike.
Debout devant la porte d'un dépôt, Rosette veut se procurer de quelques sacs de farine pour sa famille.
Je suis en train de faire mon stock. J'ai déjà acheté de la braise, des haricots, de l'huile et maintenant de la farine. Nous avons un peu peur, mais nous avons confiance. Notre armée va battre le M23 et nous l'encourageons.
À cause de la guerre, Bukavu est privé des denrées alimentaires en provenance du Nord Kivu. Conséquence, les prix commencent à monter. Dans son dépôt, Jean-Jacques Biragui fait part de ses craintes.
Le prix de la farine va augmenter car elle provient de Goma, pareil pour les haricots. D'autres proviennent du Rwanda. Le lait de Goma devient de plus en plus rare, sauf pour ceux qui en avaient en grande quantité. La pomme de terre se vendait à 3000 francs, actuellement c'est 3500. Alors s'il n'y a pas un couloir ouvert pour le commerce, les prix vont augmenter.
Après avoir fini ses courses au marché, Lebon, 51 ans, jette son téléphone. Il accuse les réseaux sociaux de diffuser des fausses informations et s'adresse au gouvernement congolais.
Ce sont les réseaux sociaux qui créent la panique. Parfois on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi je suis favorable à ce que l'on ferme les réseaux. Le président Tshisekedi doit les couper car nous avons besoin de silence. Il faut laisser l'armée se battre.
Dans son message à la société civile, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porroussi, a exhorté les habitants à rester unis et à lutter contre la peur. Il appelle les Congolais à ne pas reproduire les erreurs du passé. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et hier, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a reconnu lors d'un entretien accordé à TV5 Monde que, je cite, une grande partie de la ville de Goma était tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Et il précise bien armée rwandaise car pour lui, le M23 seul n'existe pas. Le Rwanda, par ailleurs, mis en cause également par l'Afrique du Sud et par le Burundi, deux pays qui déploient en ce moment des troupes aux côtés de l'armée congolaise. Le Rwanda qui répond et qui se dit favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Vendredi, le président burundais Evariste Ndayishimiye avait exhorté la communauté internationale à prendre au sérieux le risque d'une guerre régionale. Il avait accusé Kigali, je cite, de préparer quelque chose contre son pays et avait souligné qu'il n'entendait pas se laisser faire. Si le Rwanda parle d'accusations sans fondement, pour Jason Stearns, le fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'université de New York, le risque est bien réel.
Aujourd'hui, alors qu'on se parle, il y a une guerre plus ou moins clandestine entre le Rwanda et le Burundi sur le sol congolais. Il y a des milliers de soldats de l'armée nationale burundaise qui sont déployés à côté des soldats congolais. On parle des centaines de morts côté burundais et aussi des centaines de morts côté rwandais. Ça, c'est très dangereux, je pense, parce que compte tenu de l'histoire de la région où ces deux pays ont soutenu des rebelles respectivement de leurs deux pays, et je pense que c'était ça que le président Ndayishimiye était en train de dire, il y a un grand risque qu'il y ait une guerre ouverte entre ces deux pays aussi.
Le président burundais parle d'un conflit plus large à l'échelle de l'Est du continent.
Ça, c'est plus difficile à entrevoir. La Tanzanie se sont montrés très réticents, très peu de déclarations de leur côté. Là où il y a un risque quand même plus fort, c'est en Afrique du Sud, qui s'est apparu dans les derniers jours, des discussions entre Kagame et le président sud-africain Ramaphosa, dans des termes très forts où Ramaphosa lui aurait dit que s'il y a davantage des soldats sud-af qui meurent sur le sol congolais, ils vont considérer ça comme une déclaration de guerre. Et donc là aussi, je pense que les tensions sont en train de monter.
Jason Stearns, fondateur du groupe de recherche sur le Congo à l'université de New York, joint par Florence Maurice. A noter aussi que l'armée tanzanienne annonce la mort de deux de ses soldats ces deux dernières semaines. La Tanzanie qui participe à la mission de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Et à Kinshasa, la mission des Nations Unies a décidé de faire évacuer de la ville les familles du personnel de la MONUSCO. Décision annoncée hier après-midi sans plus de précision, avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. RFI, 7h36 à Mogadiscio et à Garowe, c'est-à-dire en Somalie, où le gouvernement somalien et celui de la région semi-autonome du Puntland, tous les deux ont confirmé hier que des frappes américaines avaient bien tué, disent-ils, des figures clés du groupe État islamique dans la région. La veille, c'est le président américain Donald Trump qui annonçait des opérations de son armée contre un responsable du groupe djihadiste ainsi que contre d'autres terroristes recrutés sur place. À New York, correspondance de Karine Oten.
Les deux gouvernements somaliens ont réagi hier en exprimant leur sincère et profonde gratitude à Washington après avoir confirmé que les frappes américaines sur les Mongolies avaient bien tué des figures clés du groupe État islamique. L'EI est moins présent en Somalie que les Chebab affiliés à Al-Qaïda, mais l'ONU a prévenu qu'ils gagnaient en influence et les forces du Puntland ont justement monté une opération le ciblant depuis fin décembre. Ces tueurs que nous avons retrouvés cachés dans des grottes menaçaient les États-Unis et nos alliés, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le dernier attentat signé État islamique sur le sol américain, c'était le 14 janvier à la Nouvelle-Orléans, quand un ex-militaire américain a fait foncer sa voiture dans la foule, fauchant 14 personnes. Il s'était revendiqué de l'EI. Impossible de savoir si cette opération conjointe, comme l'affirme Mogadiscio, avait été planifiée sous l'administration Biden. L'an dernier, les États-Unis ont déjà mené une attaque en coordination avec la Somalie et tué 3 membres du groupe État islamique. Karine Oten, New York, RFI.
Une attaque horrible et indiscriminée au Soudan. Les Nations Unies condamnent une nouvelle fois les attaques touchant les civils. En l'occurrence, ce week-end, un bombardement sur le marché d'Omdurman, la grande ville juste à côté de Khartoum, qui a fait au moins 54 morts et près de 160 blessés. Les autorités soudanaises mettent en cause leurs rivaux des FSR, les hommes du général Emeti, qui démentent et qui rejettent, eux, la faute sur l'armée nationale soudanaise. Dans quelles conditions le procès de Kizza Besigye va-t-il pouvoir se poursuivre en Ouganda aujourd'hui? Une nouvelle séance est prévue devant la cour martiale à Kampala pour cet opposant qui est un civil et qui est poursuivi pour des faits présumés de trahison. Et si la question se pose, c'est que vendredi, la Cour suprême ougandaise a estimé qu'il était contraire à la Constitution de faire juger des civils par des juridictions militaires. Ce week-end, le président Yoweri Museveni et l'armée ougandaise se sont opposés à cette décision. Précision et explication avec Walid Diallo.
Pour le président Museveni, toute personne armée mal intentionnée devrait être jugée devant un tribunal militaire, et ce, quand bien même la Cour suprême vient de déclarer cela inconstitutionnel. Le président a déclaré refuser d'abandonner un instrument de stabilité. Il a envisagé des ajustements à la loi ou à la Constitution afin de permettre le maintien du système actuel. Vendredi, la Cour suprême a jugé « Toutes les procédures en cours impliquant des civils devant les tribunaux militaires doivent cesser immédiatement et être transférées aux juridictions ordinaires ». Une décision à laquelle s'est ouvertement opposée l'armée. Dans un communiqué samedi, son porte-parole Chris Magenzi a déclaré que Kizza Besigye ne sera libéré sous aucun prétexte avant son jugement devant la Cour martiale. L'opposant au pouvoir risquait la peine de mort devant le tribunal militaire. Frédéric Musisi, l'un de ses avocats, s'était dit satisfait de la décision de la Cour. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la libération de Kizza Besigye, a-t-il ajouté. En ce qui concerne le président Museveni, l'avocat a prévenu que ne pas respecter la décision de la Cour suprême reviendrait à renverser la Constitution.
Wely Diallo, le Burundi devra faire sans les fonds du FMI et de la Banque mondiale. Il y a un an et demi, pourtant, Gitega et le Fonds monétaire international étaient parvenus à un accord au terme duquel le Burundi devait recevoir 260 millions de dollars étalés sur près de 4 ans, de l'argent qui aurait dû aider le pays à faire face à une grave crise de devises qui se traduit aujourd'hui au quotidien par une sévère pénurie de carburant dans le pays. Une première tranche a été décaissée en échange d'une première dévaluation du franc burundais. Mais depuis, le FMI a réclamé une deuxième dévaluation, ce que le président burundais a refusé, nous explique Esdras Ndikoumana.
Inacceptable aux yeux du président burundais, qui a bondi devant la proposition de dévaluer une nouvelle fois le franc burundais par rapport au dollar, afin d'aligner le taux du marché officiel sur celui du marché noir. Il est aujourd'hui 2,5 fois plus élevé. Mission de haut responsable du FMI ou de la Banque mondiale, visite d'experts, toutes les tentatives afin de le persuader de changer d'avis n'y ont rien fait. Evariste Ndayishimiye est resté droit dans ses bottes de général, ce serait participer à accélérer une inflation déjà galopante, a-t-il justifié à plusieurs reprises. Elle était par exemple de 36% en décembre, selon les données de la Banque centrale du Burundi. Conséquence, depuis le 18 janvier dernier, 18 mois jour pour jour après la signature de cet accord, celui-ci est devenu caduc. Ça veut dire que les quelques 200 millions de dollars que le FMI n'avait pas encore décaissés ne le seront pas, explique une de nos sources. Ce n'est pas une surprise car les autorités burundaises étaient au courant pour cette échéance. C'est un choix délibéré à renchérir une autre source, ajoutant que les contre-coups de cette décision seront nombreux. Sur le plan financier, une aide budgétaire de la Banque mondiale qui était associée à la conclusion de cet accord tombe également à l'eau. Et sur le plan économique, 2025 sera une année difficile, très difficile pour le Burundi, prédisent plusieurs économistes.
Esdras Ndikoumana, à Gitega, il est 6h41.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
5h41 ici à Paris. Afrique Matin à suivre. Reportage à Port-Louis, l'île Maurice, qui se souvient de Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy, l'un des